Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.
Mais j'y pense, je ne pense qu'à ça.
Tout d'un coup, le jeune voit tout tourner et ses jambes ne le tiennent plus. Que m'arrive-t-il ?
Rien.
Le jeune voit tout tourner.
Ah ! Il est tombé à terre. Il se penche vers le jeune qui ne réagit pas. Avec la corde qu'il a pris, il attache les bras et les jambes. Finalement, tire le jeune qui est évanoui par les jambes vers le mur. Commencez à monter. Ah, 70 cm de hauteur. En face des deux, entre les deux murs, il y a 50 cm. Benoît soulève le corps jeune et jette le jeune entre les deux murs. Le jeune a été jeté, toujours évanoui.
Il quitte sa veste, retourne sa manche, il va recouvrir le corps de ciment et finir le mur avec des briques. Lundi, il dira qu'il a été obligé c'est de terminer le mur parce qu'il n'était pas assez pour le consolider parce qu'il risquait de tomber.
rentre chez lui à minuit, dans un état nerveux très grand.
Entrez.
Il retrouve sa femme dans sa chambre. Elle est déjà au lit.
Tu rentres bien tard.
Des comptes à voir. Il passe une nuit agitée et pleine de remords, plus que pour ceux qu'il a eus pour la fille, parce que la fille, elle, elle l'avait trahi et il l'aimait, tandis que lui, c'était presque un inconnu et qu'il n'avait avant son chantage aucune rancune contre lui. Contre lui ou sentiment, aucune rancune ou sentiment. Le lendemain, il est chaud, fiévreux. Sa femme lui demande :
tu veux le médecin ?
Non.
Qu'as-tu ?
Rien. Il passe une semaine horrible. À voir tous les jours le mur. Les ouvriers l'ont fini. Personne ne peut voir ce qu'il cache. Mais lui frissonne à chaque fois qu'il le voit. Il a plus en plus peur qu'il tombe. Chaque fois qu'un camion fait une manœuvre, il a peur. Dehors, il court plusieurs fois. Il croit plusieurs fois reconnaître le jeune. Il n'en peut plus. Frise à dépression. Le moindre bruit, coup de sonnette, de la porte ou du téléphone le fait sursauter. Sa femme le regarde inquiète. Il ne mange presque plus, maigrit, pâlit, semble dans les nuages. Lorsqu'on lui parle, il ne fait pas attention à ce qu'on lui dit. Ou il faut qu'on lui parle fort, et si on lui parle fort, il sursaute. Un soir, dans leur chambre, sa femme lui demande, ils sont assis tous les deux sur le rebord du lit,
« Qu'as-tu ? Ça ne va pas ?»
Il ne répond pas. Elle lui dit,
« Écoute, cela ne peut plus durer. Nous sommes mariés tous les deux. Pour le pire comme pour le meilleur. Alors, si le pire est là, je dois le savoir. N'aie pas peur. Quoi que tu aies fait, une femme reste toujours unie à son mari. » Même la loi dit qu'elle n'a pas à être contre lui. Allez, dis-moi tout. Je suis ta femme.
Pris de surprise, il lui dit tout. La fille, le maître chanteur. Le poison n'était pas dans la bouteille, mais dans le verre. Une goutte invisible et incolore. Et lui parle du mur. Il a fini. Elle l'embrasse sur la joue. Mais ce baiser ne lui cache pas qu'elle a une arme contre lui. Elle lui dit,
« Nous sommes deux à le savoir. Je veux, c'est que tu vives normalement. Tu n'as pas de remords à avoir. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Et puis, le métier de maître chanteur a ses risques. Ne parlons plus de cette histoire. »
« Merci, tu es bonne. »
« Tu crois ?»
Une pensée lui vient à l'esprit. Ne plus en parler, cela veut dire rester sur ses positions. Elle aussi peut me faire chanter. La vie reprend petit à petit. Il essaye de vivre normalement en n'y pensant plus. Sa femme fait comme si de rien n'était. Mais, chaque fois qu'il la voit, il sait qu'elle sait et a du remords et peur. Alors il lui achète tout ce qu'elle demande. jour, il se dit « Est-ce moi qui m'imagine qu'elle me fait chanter ?» Il ne sait pas et n'ose pas lui parler. Les jours passent. Sa femme sort souvent. Et lorsqu'il rentre, elle n'est jamais chez lui, quelle que soit l'heure. Et lorsqu'elle rentre, elle rentre toute excitée, nerveuse. Il s'aperçoit qu'elle change. Elle soigne sa toilette, coiffure, a changé de parfum. En ouvrant son armoire, il trouve des vêtements qu'il ne lui connaît pas et voit qu'elle se change souvent. On lui téléphone constamment aux heures des repas. N'ose pas lui poser de questions, mais se dit « Elle a un amant ». Après ce qu'il a fait, ce qu'elle sait, il ne peut le lui reprocher. La nuit, elle se dérobe à ses désirs sexuels, comme si elle était comblée ailleurs. Cela l'irrite de plus en plus, surtout que depuis qu'elle se comporte comme ça, bien soignée et tout, il la trouve plus désirable qu'avant et ce désir se transforme avec le secret qui l'excite, le secret de sa femme. Une femme qui a un secret excite encore plus un homme et se met à la désirer, à en devenir jaloux. Mais n'ose pas faire quelque chose. Un jour, sa fille lui dit « Il y a quelque temps déjà, un homme a téléphoné pour dire qu'il avait des révélations à te dire. » « Il y a combien de temps ? » ?»« Peut-être 3 semaines ou plus. » A-t-il retéléphoné ? Non, père. Et à vous ? Je n'ai pas reçu d'appel. Le père se demande si ce n'est pas celui qui l'a tué, ou un autre, ou alors un maître chanteur, une personne qui était dans l'entreprise cette nuit-là et qui l'a vu le tuer. Il est inquiet, il a peur à chaque fois qu'on lui donne rendez-vous. Les jours passent. Les jours passent. Et il ne sait toujours pas qui est le maître chanteur. Les jours passent. À une soirée de sa femme, un jeune homme dans les 25 ans, grand, mince, brut, visage sympathique, l'accoste. Vous êtes monsieur Scraff ?
Oui.
Benoît Scraff ?
Oui, pourquoi ?
Je suis la personne qui a téléphoné il y a quelque temps. J'ai eu votre fille pour avoir un rendez-vous avec vous.
Pour quel sujet ?
Pour parler de ce que je sais sur vous, le père lui dit.
Ça ne vous gêne pas de parler comme ça ici ?
Le jeune lui répond. Non, le père lui dit.
Moi si.
Je risque moins que dans un lieu privé, le père lui dit.
Allons dans le jardin.
Ils y vont. Le jardin est en réalité une cour intérieure où l'on a mis des arbres en pot et des fleurs. Le jeune homme lui dit, je sais tout.
Tout quoi ?
Le mur qui est et ce qu'il cache.
Comment le savez-vous?
Ça ne vous regarde pas.
Que voulez-vous?
Tout. Donnez-moi votre fille et j'aurai tout.
Non, c'est impossible.
Oui, je sais. Je suis mieux et plus jeune qu'elle. Mais je passerai outre. Je viendrai demain chercher la réponse. Réfléchissez. Avec moi, vous ne risquez rien. Le mur restera debout tant que je serai... tant que je vous succéderai. Le jeune homme le quitte. Le père le regarde s'éloigner et juste où il va quitter la cour, voit l'ombre de sa femme qui a dû entendre et suit le jeune homme. Il retourne à la soirée. Benoît aussi. Il voit sa femme et le jeune homme rester ensemble et discuter. Puis le jeune homme et sa femme quittent la soirée. Ils voient qu'ils prennent tous deux une voiture. Benoît sort en vitesse. Pour les suivre, la voiture du jeune homme est en premier. Sa femme le suit. Benoît les suit tous les deux. La voiture du jeune homme et celle de sa femme s'est arrêtée. Benoît les voit tous les deux sortir de leur voiture et entrer en courant dans une maison. Benoît attend dans sa voiture. Tout à coup, des coups de feu. Sa femme qui sort en courant de la maison. Elle est entrée dans sa voiture. Benoît l'a suivie. Elle est retournée chez elle. Il retrouve la soirée, lui aussi. Il se dit qu'elle a fait ça pour me sauver. Elle m'aime vraiment.
Au fait, j'ai oublié de te dire, j'ai contacté un autre avocat, Maître Rose.
Une fois que la soirée est finie, le mari va retrouver sa femme dans sa chambre.
Monstre.
Elle se prépare pour la nuit et presque déshabillée. Il va vers elle. Elle lui dit, je t'ai suivi. J'ai entendu aussi le coup de feu. Merci. Elle le regarde furieuse et lui dit, j'ai tué. C'est moi. Il voulait me laisser tomber pour prendre ma fille et notre fortune. C'était mon amant. C'est moi qui lui ai tout raconté. Je voulais qu'il te fasse chanter pour avoir de l'argent et l'usine. Mais lui, dès qu'il a su ton secret, tout, il voulait tout. Et en plus, me laisser tomber. Je l'ai tué. Tu comprends? Je l'ai tué. Si je te dénonce, je me dénonce. Benoît la gifle. Elle ne bronche pas.
Elle sort de sa chambre pour aller prendre un bain. Lui sort de sa chambre pour aller dans la sienne.
Femmes ont leur secret en commun. Cela les lie. Ce double meurtre les met à égalité. Et la vie reprend son cours. Personne dans leur entourage ne s'est aperçu de rien. Un soir au dîner, leur fille leur dit « Je vous trouve en pleine forme tous les deux, très unis, vous semblez amoureux tous les deux, c'est merveilleux !» Cela fait rire le père et la mère. Un jour, un homme lui a téléphoné pour lui donner rendez-vous.
Le soir, sa femme va dans sa chambre. Entrez. Elle entre. Il est assis à sa table, à lire un rapport. Elle s'approche de lui. Elle lui dit, « N'oublie pas ton rapport, ton rendez-vous pour demain. » Et s'assoit sur le rebord du lit.
Nous avons eu de la chance. Notre histoire aurait pu mal finir. On aurait pu nous faire tuer. Ou nous entretuer. Ce qui nous désunissait nous a réunis. Notre union est sauve. Nicolas est dans le train qui va à Chambéry pour un repérage, peut-être un film. Son compartiment est vide. Tout à coup, la porte s'ouvre et apparaît Dubois Philippe. Philippe qui sourit lui dit « Quel heureux hasard, je suis heureux de te voir. » Moi aussi, Nicolas est très ému. Philippe s'assoit à côté de lui et lui dit « Je pense constamment à toi, ce que j'ai vécu avec toi. » Je ne le revirai plus jamais. C'était trop fort, trop grand. Cela lui dit, moi aussi. Je ne pourrai jamais revivre ce que nous avons vécu. Que deviens-tu? Philippe lui répond, je vais me marier. Et oui, je fais comme tout le monde. C'est une gentille fille sans histoire. Il n'y a pas de passion entre nous, tu vois. De l'amour tendre et c'est tout. Je vais vivre chez mes beaux-parents, qui sont près de la frontière suisse, en Haute-Savoie. Félicitations, merci. Et toi? Oh, moi, rien. J'essaye de faire des films. Mais pas marié, je vis seul. Philippe lui sourit. La lumière dans ses yeux, une connivence pour le plaisir. Nicolas lui répond avec un sourire en biais. Il prend la main et la lui caresse. Il sent que Philippe aimerait plus. Nicolas ne peut. Il est ému de le revoir, mais il a perdu sa juvénilité. Il s'est emporté, élargi, pris un peu de ventre. Le regard est moins clair, les cheveux moins beaux. Pourtant, la peau de sa main est tout aussi douce. Il se demande s'il a vraiment aimé. Où a-t-il aimé une image? Il se dit que le cinéma est dangereux, car il lui montre des gens beaux et jeunes que le public peut tomber amoureux d'une personne morte ou qui ne ressemble plus à cette image. Et puis, Philippe sourit, un sourire tendre et gentil, prend une cigarette et l'allume. Ce geste éveille l'amour qu'il avait pour lui. Il a envie de l'embrasser. Il se lève, lui tend la main et lui dit « Viens ». Philippe se lève et le suit. Nicolas le mène aux toilettes. Et là, fermé dans cet endroit étroit qui sent le désinfectant, il l'embrasse goulûment. Il aime l'odeur de Philippe, sa douceur. Restant lancé jusqu'à ce qu'il sorte, que le train arrive en gare. Là, ils sortent des toilettes sans se faire voir. Le train est arrivé en gare de Chambéry. Là que je descends, j'ai des repérages à faire. Nicolas descend du train. Philippe fait le geste de descendre aussi. Nicolas le retient et lui dit « Non, il vaut mieux que tu restes dans le train et vive comme tout le monde. » Moi, je ne pourrais que te donner une vie marginale qui risque de te faire du mal. Philippe pleure. Nicolas ferme la porte du wagon et le train repart. Nicolas le regarde s'éloigner. Il a le cafard terrible, aimerait mourir. Il se dit que tout est fini, que tout est éphémère. Tout est éphémère. Il sort de la gare. Va à la direction de son hôtel. Il a envie de tout laisser tomber et de vivre en Chambéry. À lire et regarder les films des autres. se dit que de toute façon, il n'arrivera jamais à faire mieux. Puis, après une semaine, il se sent obligé de chercher une villa dans les environs de Chambéry, en se demandant si un film est une œuvre d'art. Des fois, on se demande pourquoi tel ou tel film est un chef-d'œuvre. Qu'est-ce qui permet de dire qu'un film est un chef-d'œuvre, une œuvre d'art? En réfléchissant bien, il se dit aussi que les gens heureux ne peuvent créer, car le malheur permet la sublimation comme le manque sexuel ou autre. Cela permet de crier sa rage ou de recréer un monde meilleur. Si tout va bien, on n'a besoin de rien. Il a trouvé une villa pour le film, une petite villa dans un petit village. La villa à deux étages, sans style, moderne, un peu isolée. L'histoire de son film, c'est... C'est une femme qui perd la tête après la mort de son mari. Elle ne reconnaît plus ses proches et petit à petit, elle voit s'enfermer dans un trou noir sans qu'elle s'en rende compte. Elle perd la notion du temps, jour, heure. Elle ne sait plus où elle est, elle ne reconnaît plus personne et perd même son identité. Mais de temps en temps, elle redevient lucide. Il faut de plus en plus s'occuper d'elle comme un bébé heureux. Ses enfants ont du chagrin car elle ne les reconnaît pas. Ils la surveillent constamment. Elle risque de créer des accidents. La femme a la maladie d'Alzheimer. À la fin du film, on la voit s'éloigner du monde. La famille se rend compte qu'ils vont être obligés de s'en séparer. Un après-midi, elle est sortie de chez elle, car elle a un moment de lucidité, et tout d'un coup, en pleine rue, elle perd la mémoire. On appelle les pompiers pour aider cette femme qui semble perdue, hébétée. Un mois plus tard, après l'hôpital, l'asile d'aliénés, on la met dans une maison. Un mois plus tard, une voisine reçoit un appel téléphonique d'elle. « Je veux revenir chez moi. Je suis malheureuse. » La voisine n'ose pas lui dire que la maison a été vendue. Elle téléphone plusieurs fois. « Je suis malheureuse. » La voisine est troublée par ces appels, surtout qu'elle dit qu'elle est malheureuse. Les appels se font de plus en plus lointains. Et un jour, plus d'appels téléphoniques. Le film se termine par une image de téléphone muet. Dès qu'il a eu fini d'écrire ce scénario, il a voulu trouver un décor, une villa, dans un ghetto grandiose, en dehors de la ville, mais stressant. Il faut avoir trouvé la villa qui appartient à un vieux couple. Il leur a dit « Ne touchez à rien, je vous le promets. » Puis il a fallu trouver les comédiens. Pour l'actrice principale, il la veut belle, bien, pas l'air folle. Pour le rôle de Marie, il choisit un comédien de 50 ans qui fait plus. L'homme n'est pas trop grand, maigre, cheveux blancs.
Le premier jour du tournage, Nicolas est stressé. Il a peur d'être jugé. Le tournage se passe bien. Sauf que le comédien masculin a amené dans sa chambre d'hôtel un jeune garçon de 14 ans et le tripote. Le jeune, ensuite, veut le faire chanter. Mais le comédien, têtu, refuse de lui donner de l'argent. Et se plaint à Nicolas. Nicolas fait comprendre au jeune que si le vieux est arrêté, lui aussi aura des ennuis pour chantage et prostitution. Le jeune laisse tomber. Le film est fini. Il a épuisé Nicolas et rêve de ne rien faire, que des films avec des paysages, des objets. Mais comme il rêve beaucoup et que ses rêves ont une certaine logique, à chaque fois qu'il se réveille, il rêve de faire un film de ce qu'il a vu et même vécu si l'on veut. Il se dit que ça pourrait faire un bon film d'horreur. Toutes les nuits, il s'endort, rêve, se réveille et recommence plusieurs fois dans la nuit. Il rêve beaucoup. Nicolas se dit, vivre c'est dur pour tout le monde, et chacun fait comme il peut, mais ceux qui voient la vie d'une façon plus noble que les autres ont plus de difficultés à vivre, à se plaire, à s'accepter. Ils sont dépressifs et vivent en retrait des autres. Je ne serai jamais heureux, car moi aussi, je suis comme ça. Un soir, il est chez ses parents. Après le dîner, il est seul avec son père au salon. Son père lui dit « La crise que nous vivons vient en partie que la richesse ne se diffuse pas entre les différentes classes de la société. Avant, l'entreprise aidait à cette répartition. Car dans une entreprise, il y avait des cadres, des employés, des ouvriers et des manœuvres. » Et lorsqu'un cadre trouvait quelque chose qui enrichissait l'entreprise, dans l'entreprise, du haut en bas de l'échelle, tout le monde en profitait et en recevait les bénéfices financiers ou et autres. Maintenant, dans une entreprise, il n'y a qu'une catégorie de gens, ce qui fait que si les cadres ont trouvé quelque chose, ça ne rapporte qu'aux gens de leur classe. Car les autres catégories ne sont plus dans leur entreprise. Le travail manuel se fait ailleurs, même dans un autre continent. La comptabilité, la bureaucratie aussi peut se faire dans une autre entreprise. Ceci est grave pour la vie sociale et privée, car il n'y a plus de brassage de classe. On se trouve entre gens de même classe. On se marie, l'on vit. On va à l'école toujours avec les gens du même milieu. Et lorsque l'on est dans une classe, on ne peut pas passer dans une autre. Le mélange des classes dans le travail ou dans une entreprise. Il y avait toutes les catégories de classes, même si elles se mélangeaient pas constamment, avaient tout de même des rapports et cela permettait de se connaître, d'avoir du respect vis-à-vis de l'autre et de comprendre ce que faisait l'autre. Tout ce changement est dû en partie par les ouvriers qui n'ont plus voulu faire du travail d'OS. Ils ont voulu poursuivre leurs études et avoir des études supérieures pour tous. Ça a chassé les ouvriers des entreprises, leur a enlevé les avantages et créé du chômage. Ce qui fait que le profit reste à la classe des cadres au lieu de s'éparpiller. Et l'on ne peut pas revenir en arrière, il faut trouver une solution pour l'ensemble de la population, pour qu'elle puisse profiter des richesses. Autrement, ce risque de diviser le pays en deux.
les riches et les pauvres, pas de classe moyenne.
Benoît se verse à boire.
Nicolas le laisse parler, il faut bien qu'il déverse ses idées à quelqu'un.
Le père continue. La mondialisation, ses affaires. Avant, une entreprise avait comme champ d'action la nation. Maintenant, avec les nouvelles technologies, c'est le monde. Les entreprises n'ont plus besoin de nation. Par contre, les peuples s'y sentent plus en sécurité et demandent à rester dans le système nation qui semble mieux les défendre. Mais malheureusement, les politiques qui sont plus près des hommes d'affaires, à cause qu'ils en sont pour la plupart, désirent créer des États-Unis qui supprimeraient la nation pour permettre aux entreprises d'avoir plus de champs d'action pour leurs affaires. Ceci crée une cassure dangereuse entre le politique et la population qui se sentent sans défense et vendues au patronat et aux entreprises internationales par les politiques. Ce n'est pas le peuple qui veut l'Europe unie, mais les hommes d'affaires et les politiciens. Cette cassure entre ce que souhaitent les gens et leurs dirigeants est dangereuse. Elle risque de mettre le feu aux poudres et de créer des groupes indépendantistes, extrémistes, qui au fil des temps feront fi de la loi, puisque la loi n'est plus ce que souhaite ou représente le peuple. Ils se diront représenter réellement le peuple mieux que le gouvernement. Entre la politique mondialiste et celle des entreprises qui empêchent de partager les richesses, le peuple va et se sent déjà étouffé. Cela va exploser comme une cocotte minute.
Benoît se sent obligé d'offrir des cadeaux somptueux à sa femme pour lui prouver son affection. Elle, elle le laisse faire. Le mur est fini. Il passe toujours le jour devant avec sa voiture.
Chez vous a perdu ça.
Oh, Sylvie!
Ah, la boucle d'oreille de Madame la Comtesse va être contente.
Une soirée chez ses parents, Nicolas voit en compagnie de sa sœur, une jeune fille mince, les cheveux châtains, le regard rieur, très élégante. Elle porte une robe du soir blanche. Nicolas est ébloui par sa beauté. C'est le type de femme que j'aime. Il s'approche d'elle et demande à sa sœur : qui est cette jeune fille ? C'est mon amie Nadine Dupin. Mademoiselle, monsieur, sa sœur lui dit : Nadine est comédienne. Nicolas, heureux, lui demande : vous avez joué dans quel rôle ? Nadine lui répond, au Célestin, j'ai joué des tas de pièces de répertoire, Molière, Musset, j'ai toujours le même rôle, le rôle de jeune fille sage et ingénue. Ça doit vous aller à merveille. Elle fait l'amour et lui dit, j'aimerais jouer autre chose, une fille libérée qui aime la vie, l'amour. Colin lui dit, j'ai peut-être un rôle pour vous. Ah oui? Sa soeur leur dit, je vous laisse. Et elle s'éloigne. Colin continue. Il y a quelques années, j'avais fait un film d'après un de mes scénarios, Le Monde de Claire. Comme j'ai été obligé de prendre des acteurs qui ne me convenaient pas, j'ai dû changer de scénario. Je me suis juré que si un jour je trouvais les acteurs qu'il fallait, je referais le film. Et vous êtes là. Elle lui demande, c'est quoi cette histoire ? Oh, c'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une jeune et belle femme. Elle ne fait pas attention à lui malgré toutes ses attentions.
jusqu'au jour où il lui annonce son départ.
Merci.
La fille se rend compte de sa présence et lui dit de rester avec elle. Car en se rendant compte de sa présence, elle s'est mise à l'aimer. La jeune fille lui dit, l'histoire est très belle, mais vous ne croyez pas que je ne croyais pas qu'on peut faire encore des histoires d'amour toutes simples. Voilà, lui répond. Oui, pourquoi pas, elle lui dit. C'est-à-dire que tous les films d'action qui passent en ce moment, le vôtre risque de prendre de paraître bien pâle. Nicolas lui dit. Il est bien certain que le cinéma américain est beaucoup plus attractif que l'autre. De nos petites histoires qui ont l'air bien tristes, mais il reste même des gens, encore des gens qui aiment le cinéma intime. La preuve, la première version de mon histoire a bien marché. Alors, vous êtes d'accord pour travailler avec moi? Oui, je veux bien.
Pas tellement. Pourquoi?
Je demande tout de même
quand on boit,
à vous lire le scénario. On ne sait jamais. Oui, bien sûr. Si vous voulez, je vous l'apporterai chez vous.
Fille de mon ami du Pérou,
oui, demain 16h.
Non plus.
Rue des Archers.
C'est pas la peine de vous
numéro faire. 20.
Elle est vache. Je vous invite à danser.
Sûrement pas, il faut que je m'en aille. Bonsoir.
Attendez, vous n'allez pas me laisser comme attendez. Je vous ai reconnu.
Le lendemain, à 16h, il va chez elle. Elle habite un petit trois pièces dans un immeuble bourgeois de la fin du 19e siècle.
Il a sonné chez elle. C'est l'aile qui lui ouvre. C'est en robe d'intérieur rose. Entrez. Il entre. Elle ferme la porte. Elle le fait entrer dans son salon. Entrez. Il est meublé Louis XVI. Asseyez-vous. Il montre un bridge devant une table basse. Il s'assoit. Il pose le scénario sur la table. Voilà le scénario. Merci, je le lirai. Vous voulez boire quelque chose? J'ai préparé un thé. Oui, je veux bien. Et elle sort de la pièce pour aller chercher le thé. Elle revient avec un plateau. Elle pose sur la table basse et s'assoit en face de lui. Elle le serre. Lait, sucre, un doigt de lait. Tenez. Merci. se sert aussi. Boit une gorgée de thé, c'est bouillant, brûle les lèvres et la gorge, ce qui fait qu'après, on ne sait pas ce que l'on boit. Avec le thé, il y a des petits gâteaux, elle sourit, il lui demande « Pourquoi souriez-vous ?» Parce que chaque fois que l'on prend le thé, c'est toujours la même chose, les mêmes questions que l'on pose, lait, sucre, citron, cela devient lassant. Je m'imagine un film très ennuyeux, un télo. Durant tout le film, l'on verrait des gens prendre le thé. Au bout d'une demi-heure, le public en aurait la nausée. Il lui demande « Pourquoi m'avez-vous proposé du thé ?» Elle lui répond « Tout d'abord, par habitude, 16 heures, c'est l'heure du thé. Et puis, parce que j'aime malgré tout cette boisson étrange. Mais ça m'ennuie de le servir. Je ne suis pas du tout maîtresse de maison. » Il lui demande « Vous l'avez déjà été ?» Elle hausse ses épaules et lui dit « Juste pour mon père. Et si vous m'avez posé cette question pour savoir si j'ai vécu avec un homme ou des hommes ?»« Non. Les hommes me trouvent trop indépendante et moi je les trouve trop pantouflard. Et puis, moi, si je me mets avec quelqu'un, ce sera pour du sérieux. » Il lui dit « Je ne comprends pas. Vous voulez pas un homme sérieux alors que vous voulez du sérieux ?» Elle lui dit « J'ai dit, un homme pantouflard n'est pas sérieux. C'est un égoïste qui ne pense qu'à ses petits plaisirs. Un homme sérieux, c'est celui qui pense à nous. » Radio Cano vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, film intérieur dont c'était la 12e partie. Production, mise en scène Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP.